Bienvenue sur les balados de Décibel 514. Nous sommes dans l'église de Sainte-Barbe et on parlait de Monsieur Billette qui vous avait ouvert ce lieu-là. Vous avez fait des enregistrements dans le presbytère et à la base, c'est le presbytère que vous avez visité pour la première fois. Mais finalement, il y a eu aussi des séances d'enregistrement pour les albums faits dans l'église.
Ben, déjà, en fait, c'est un hasard qui nous a amené à rentrer dans cette église. Nous, on était ici, on travaillait la musique en 2013, 2014... 2015 dans le presbytère, puis on a rencontré M. Billette. Et là, on a fait un test, on a enregistré ce qu'on a testé, on l'a réécouté à Montréal. C'était intéressant, puis même en jouant, on avait quand même un bon feeling. Ce qui est marquant ici, c'est vraiment la toiture, le côté boisé, en effet. On s'est informé un petit peu déjà. Souvent dans les églises, c'est joli, c'est invitant, c'est intéressant, c'est mystérieux, mais tu sais, la reverb, des fois, la sono est pas super, tu sais.
La ventilation.
Non, c'est ça, mais voilà, puis on se disait, bon, écoute, on va pas forcer les choses, hein, si ça sonne pas bien, on le fera pas. Mais finalement, cette église-là, elle date de 67.
Donc elle est très jeune.
Ouais, quand même récente. Il y avait une ancienne église, mais bon, finalement, elle a été détruite. Là, on reconstruit ça. Puis c'est Pierre Dionne, qui est donc un architecte qui a fait cette église-là, vraiment, en s'inspirant de l'architecture suisse romande. Donc, c'était vraiment son trip de faire un lieu pour la communauté. En ayant accès à l'église, déjà, ça l'a changé un petit peu la cartographie du projet. Là, déjà, on voyait qu'il y avait d'autres trucs qui allaient être possibles.
Non, je pense que c'est vraiment c'est l'acoustique de l'église qui nous a séduit. Il y avait aussi quand même quelque chose, je pense, c'est au début, une petite excitation là, de faire la musique, un peu d'être seul dans une aussi grande place, puis tout ça. Non, après ça, on avait eu l'idée d'inviter plusieurs musiciens, musiciennes quand même assez tôt dans le projet. Mais c'est sûr qu'après, on a vraiment réfléchi en fonction de quelle pièce allait être enregistrée dans le presbytère, quelle pièce allait être enregistrée dans l'église. Il y a des pièces, en fait, qu'on a enregistrées dans les deux endroits parce qu'on n'était pas sûr, puis on a fait certaines sélections. Puis ce qui est quand même bien aussi, c'est que moi, j'ai fini par avoir un petit coup de cœur envers cette église-là parce qu'elle a sa personnalité, mais au sens même sonore, c'est-à-dire que bon, peut-être qu'on va l'entendre, mais le plafond craque vraiment souvent. Puis c'est arrivé, en fait, dans plusieurs enregistrements, on a décidé finalement de ne pas enlever ces sons-là, justement. Il y avait une espèce de truc, c'est comme si la matérialité du lieu nous parlait. Tu sais.
Il est rentré dans la bande sonore du lieu, du village.
Puis finalement, la matérialité propre au lieu qui s'invitait dans nos improvisations. Puis c'est quelque chose qu'on aimait bien, comme on discutait cette idée-là un peu... C'est justement ce qui nous traverse, l'espèce de porosité, l'ouverture à l'environnement. Mais après ça, que le lieu, justement, ait une certaine expressivité, je trouve que c'était quelque chose d'intéressant. En plus de l'acoustique qui est assez extraordinaire, ça nous a donné envie de jammer là puis d'enregistrer une bonne partie de l'album-là.
Deux acoustiques différentes, en fait. Un presbytère avec des bas plafonds, plus petite maison, chalet style, et plus une église vraiment plus... déjà très boisée, fait que parfaite pour la musique. Mais aussi, c'était quoi cette envie d'aller chercher autre chose dans l'enregistrement, dans le son, dans la résonance?
presbytère. Bon, il y a vraiment... Le presbytère a son identité propre, puis son esthétique. Mais on savait que si on enregistrait dans le presbytère, ça allait être parfait pour pouvoir isoler des trucs. Avoir, la bass dans une salle, les amplis guitare dans l'autre, le drum. Souvent, nous, par exemple, on enregistrait avec David Duquette-Dion dans la même pièce. Pour faire des improvisations, c'était vraiment cool.
Pour les gens qui auraient moins de connaissances en musique et en enregistrement, si on veut un peu décrire le presbytère, on rentre, on a une pièce de vie, salon, une cuisine, puis genre une autre pièce, et en haut, on a des chambres. Pourquoi vous n'avez pas enregistré en bas? Mais c'est une simple question, hein, et tout en haut, dans des pièces séparées.
Mais parce que ça donne la marge de manœuvre au niveau du mix, d'isoler des tracks... séparés, tu sais, comme ça, chaque instrument est sur sa propre track, on n'entend pas les autres instruments, ça leak pas, il n'y a pas de contamination de l'autre instrument, puis ça donne plus de marge de manœuvre après ça, si on veut justement retravailler un peu, baisser des volumes, si on veut reprendre certains segments, si on veut vouloir faire un overdub, comme « Ah wow, tout le monde, c'était super bien ce qu'on a joué, mais ah, cette track-là de telle personne, on est moins, pourrais-tu refaire juste ça? »
OK. T'sais. Puis il y a le grenier que vous avez utilisé aussi pour du field recording.
Ouais, ouais, entre autres...
qui est une toute petite pièce, sous les toits.
Ouais, en effet.
Mais je me rappelle une fois, on est venu juste pour faire du repérage, avec des guitares et des amplis, sans faire de la musique, juste pour brancher des guitares.
Ah ok, d'accord, juste allumer comme ça.
Juste pour voir dans les différentes prises électriques, c'était où qu'il y avait du noise et où qu'il y en avait le moins.
Incroyable.
C'est quand même une vieille maison qui...
Ouais, puis ça craque aussi, hein.
Ouais, ouais.
À un moment donné, il y a eu, bien avant le lancement qu'il y a eu à l'église, une présentation aux riverains, aux habitants, à mi-chemin, de quelque chose d'embryonnaire. Puis j'aimerais bien qu'on revienne sur cette soirée-là.
C'était la fin du... on avait une subvention en recherche-création du Conseil des arts du Canada, et puis on voulait présenter le projet à la communauté. C'était la première fois, nous, ça faisait depuis 2013 qu'on allait faire la musique là. Et puis là, on se disait, bon, on vient d'avoir une bonne somme, on a fait une bonne partie de la composition du projet, certains enregistrements.
Et puis depuis 2015 aussi,
oui, c'est ça.
Voilà.
Et puis donc là, on s'est dit, ça y est, là, on se sent prêt, on veut montrer à la communauté ce qu'on a fait. Et puis, pour vrai, ça a été assez surprenant. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont présentés. Puis ça a été, ouais, une formule assez embryonnaire. Finalement, il y a peut-être quoi, un tiers de l'album qu'on a joué ce soir-là.
Pas tout était enregistré déjà. Hein?
Non.
Non,
du tout.
Non.
En fait, ça a été un moment important pour nous parce que c'est là qu'on s'est rendu compte de qu'est-ce qui fonctionnait un peu mieux puis qu'est-ce qui fonctionnait moins bien. Donc déjà, ça nous a placé un petit peu les trucs pour des étapes d'après. À cette époque-là, on avait l'équivalent d'un album, je dirais, comme un vinyle, tu sais, 2 fois 21 minutes. On avait à peu près une espèce de 42 minutes. Et on ne savait pas encore à cette époque-là, mais parce qu'on a juste réécouté ça au début de la pandémie, tu sais, en février, puis en mars 2020, mais on ne savait pas qu'au moment des Journées de la culture, donc en 2018, en septembre 2018, qu'on a fait le show ici, on ne savait pas que juste à travers ce qui se trouvait dans les interstices, c'est-à-dire en marge des chansons et des pièces, mais juste dans les moments d'improvisation, on avait déjà une grosse partie quand même de l'album. Et c'est comme si en 2018, on avait quoi, 4, 5 pièces faites, mais on n'avait pas encore tout réécouté, tout ce qu'on avait fait dans les sessions d'enregistrement qu'il y a eu. Donc, c'est juste plus tard qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus de stock. Fait que dans le fond, les moments de il y a eu des moments de création ici en 2017, à l'été 2017, puis des week-ends à l'été 2018. Fait qu'il y a eu il y avait déjà eu 3 moments d'enregistrement pour le projet, ce qui s'appelait à l'époque le projet Sainte-Barbe.
Et ce qui était cool à cette soirée, c'est la discussion à la fin qu'il y avait eu aussi, pour avoir des premiers ressentis un peu de la part des gens.
Oui, la part d'improvisation par rapport à ce qu'il y a déjà d'écrit, s'il y a quelque chose d'écrit en tant que tel. Donc, j'ai beaucoup de questions en une, n'est-ce pas? Allez-y.
Ben, très bonne question.
Oui, c'est une super bonne question. À la base, on est un duo de guitaristes qui s'est ouvert avec le temps. À d'autres possibilités, d'autres collaborations, d'autres agencements.
C'est quoi votre langage entre vous pour dire c'est ça que je veux produire ou parce qu'il n'y a rien d'écrit, là, ce que je comprends?
Entre 2,27 et 3,32.
Donc, ça se rend, est-ce que ça se rend?
Ouais.
Ça se rend. Bien. Donc, c'est vraiment des questions super intéressantes. Ce serait fun que le monde s'intéresse autant à ça en général. Donc, pour répondre à la question, les repères, je pense qu'ils sont surtout structurels, on pourrait dire. Donc, il y a des moments qu'on est surtout... on va écouter Paul et Hubert, les deux guitaristes. Puis, en tout cas, je parle un peu pour nous quatre, là, celles qui tournent autour. Donc, c'est très structurel. Et certaines fois, il y a des mélodies qu'on entend, qu'on sait que c'est Hubert qui joue ça. Il y a un regard qui dit... Ça s'en vient. Le regard, c'est un bon point de repère aussi.
En fait, j'ai deux questions. Je lisais dans la brochure que vous avez fait des enregistrements sonores et des entretiens. Entretiens, je voulais juste savoir, clarifier, est-ce que c'est des entretiens avec des personnes dans le village? Comment ça s'est passé? Puis ma deuxième question, c'est qu'il y a quand même un vibe d'angoisse un peu. Là, je veux dire, je suis arrivé ici, je vous connais pas, je m'assois, puis mon premier réflexe, c'est pas de taper dans les mains ou de danser ou tout ça. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Je me demandais, est-ce que le happiness existe dans un projet comme ça? T'sais? Est-ce qu'il y a une vibe de bonheur à quelque part ou c'est moi qui l'interprète mal? Ou, c'était ça l'idée, je sais pas. Voilà.
Si tu joues à nous plus tard, tu vas savoir.
Vous êtes déjà heureux, là, tout va bien. Ok, parfait.
En fait, je pense que c'est. Pour la première question, on a fait une recherche un peu plus historique puis sociologique sur le village. Pour les entretiens, on a été rencontrer en fait des musiciens, souvent qui avaient des groupes dans les années 60-70, ou peut-être on peut plus s'identifier au niveau des références. On voulait savoir un peu comment avait été la vie culturelle, musicale, communautaire dans le Suroy, justement dans ces années-là. Ouais, non, ça c'était intéressant puis c'était précieux.
C'est cool d'avoir fait ça.
Ouais, pouvoir discuter avec les membres de la communauté, comment ils recevaient le projet. Beaucoup de questions, beaucoup de curiosité. Non, c'était assez intéressant. Et puis, c'est à cette soirée-là qu'on a rencontré Gilles Ducas, qui est l'artiste qui a fait justement le visuel des deux albums. Donc, non, ça a été vraiment une soirée super importante pour le projet.
Il y a eu un changement aussi, on l'a senti. Il y a eu un changement parce qu'à partir de ce moment-là, les gens ont compris ce qu'on faisait.
Dans les gens, le côté exploratoire, musical.
C'est ça, les gens de la communauté, je veux dire, ils savaient qui on était. Si on se repointait pour faire de la musique, ils comprenaient. Ils étaient très, très, très au courant. Le comité culturel était avec nous là-dedans. Déjà, à ce moment-là, les médias locaux de la municipalité avaient parlé de nous en ramenant des gens à l'événement. Parce que, par exemple, M. Billette, nous avons réussi à faire un appel à la communauté pour les gens qui étaient prêts à donner des archives personnelles en termes de vidéos et photos. On avait des gens qui filmaient sur plusieurs différents supports. Fait que là, on était capable de pouvoir parler aux gens en disant « Vous avez des trucs des années 60, 70, 80, des trucs qui n'ont jamais été développés ou peu importe, des trucs qui traînent n'importe quelle cérémonie, quoi que ce soit, ou des cartes postales, peu importe. On prend tout, puis on va s'amuser avec ça. »
Donc, à partir de ce moment-là...
Là, les gens ont répondu à l'appel.
Ouais, bien sûr.
Parce qu'ils nous connaissaient, en fait.
Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, pour les 2 ans qu'on suivit après... Tous les concerts ont été à Montréal, dans le Québec, jusqu'à la tournée dans l'Ouest canadien, en fait.
Ouais, ben ça c'est... En fait, cette histoire-là, c'est heureux, mais c'est finalement le produit d'une malchance. C'est que le projet devait sortir en 2020.
Ouais.
Le projet devait sortir en 2020.
En novembre 2020.
C'est vrai, exactement.
Puis, quand il y a eu les événements qu'on connaît, nous, on s'est dit, OK, on a... le show qu'on veut faire, on l'a en tête, on a l'équipe, on peut le faire, mais il n'y avait pas beaucoup de trucs qu'on pouvait faire pendant la pandémie, donc un des trucs qu'on a pu faire, c'est développer tout le volet visuel. Fait que là, on a travaillé là-dessus avec Larissa.
Guillaume Vallée.
Ouais,
Guillaume Vallée, oui,
exactement. Et on est venu donc à l'automne 2020 ici pour pouvoir filmer. Et tout le contenu qu'on a filmé avec Guillaume et Larissa, ça a été utile pour les vidéoclips de La Nuit Renaît Toujours, de Point sur la Carte, de Cosmic 2 et le contenu des projections.
Ouais.
Et c'est ce qui nous suit encore en tournée depuis 3 ans.
Le côté vidéo qui suit la musique et qui épouse la musique, on le retrouvait déjà sur les tournées des 2 volumes avant.
Ouais.
Donc c'était déjà quelque chose que vous aviez expérimenté.
Oui, ça faisait longtemps qu'on voulait faire ça. Et puis non, c'est vrai que la pandémie là-dessus, ça a été évidemment une malchance, mais l'album serait sorti sans vidéo.
Reculer pour mieux sauter un peu.
Ouais. Ben ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien dit. Ouais. C'est comme ça nous a donné le temps de faire quelque chose qu'on a toujours voulu faire avec notre musique, et là soudainement, on a eu le temps, puis on a eu le support du Conseil des arts et des lettres du Québec pour faire ça. Donc là, on avait les moyens et tout. Non, ça a été important.
Quand le Sacre de Sainte-Barbe est sorti, certes, il y avait beaucoup de pièces qui sont restées sur la touche. Est-ce qu'il y avait déjà idée de sortir Particules Sainte-Barbe qui est sorti en 2023?
Ça fait longtemps que c'est... Que...
Vous le saviez?
On a eu très tôt conscience qu'on avait beaucoup de matériel. Puis le choix des pièces pour... le sac de Sainte-Barbe, ça a été assez difficile parce qu'on tenait vraiment à une espèce de construction de l'album, les gens disaient un espèce de voyage qu'on voulait faire vivre à travers l'album.
Et les fils de recording et tout ça, c'était une histoire.
Oui, mais ensuite, ben là, on est limité par les côtés du vinyle.
Ah ouais.
On est limité par... Fait qu'il y avait toutes sortes de choix difficiles qui ont dû être faits.
Mais j'ai l'impression que l'accueil a été pas meilleur que ce que vous espériez, mais... Il y a eu un très, très bon accueil quand même.
Oui, vraiment.
Puis il y a eu beaucoup de gens aux différents shows que vous avez fait
ouais.
dans ces deux provinces-là.
Oui, ça a été un vrai succès. Je pense que autant on aime Montréal, c'est notre ville, la scène expérimentale puis la musique indépendante nous a forgé à Montréal. Autant je pense que c'est une ville qui en a vu beaucoup, là, des groupes musique expérimentale, post-rock, ambiante, post-punk, puis ainsi de suite. Je pense que là-bas, il y avait peut-être une nouvelle ouverture, une nouvelle curiosité. Il y a beaucoup de gens qui étaient très, très impressionnés que c'était la première fois qu'ils voyaient des concerts de musique comme ça. Ça crée aussi une espèce de je sais pas, une bonne réception, une bonne réception.
Est-ce que c'est plus des provinces de indie, tu penses?
Peut-être, mais on s'est fait souvent dire quand on sortait du Québec, on représentait vraiment bien une espèce de son de Montréal.
Ouais.
Je sais toujours pas trop ce que ça veut dire, mais je pense que les gens, quand ils voyaient un band de Montréal qui font de la musique instrumentale, expérimentale, ils venaient, puis en tout cas, il n'avait pas l'air déçu de ce que j'ai
compris. Est-ce que Montréal était connu pour ça dans l'Ouest?
Ah oui, clairement.
Est-ce qu'on vous l'a dit?
Ben, la plupart des gens originaux, sympathiques, qui avaient l'air d'avoir un peu du vécu intéressant, avaient à peu près tout vécu à Montréal, quelques mois dans leur vie. On a l'impression qu'au Canada...
Comme le goût de vivre ça, quoi.
Ben, si t'es un original, si tu as envie de culture un peu underground ou quoi, j'ai l'impression qu'au Canada, Montréal, c'est comme un passage obligé, c'est ça, tu sais.
Wow, incroyable.
Puis aussi en Alberta, c'est surprenant, mais tu sais, ben moi je m'en doutais un peu, mais je voyais pas à quel point, mais il y a plein de francophones en fait. À Edmonton, à Calgary, tu sais, le monde, ça, les francophones ils voient un nom de band en français puis ils sont attirés, tu sais, puis là toi t'es comme à des milliers de kilomètres du Québec. Là, on se doute bien au Québec qu'il y a plein de francophones en Ontario, des francophones.
On a tendance à oublier, je pense, de manière générale, on a tendance à oublier les autres communautés francophones, hormis les Québécois, les franco-ontariens, parce qu'ils sont proches de nous, et les personnes dans les maritimes. Dans le reste des provinces, on a tendance à oublier, mais en fait, ces communautés francophones, c'est ce qui fait vraiment la singularité du Canada. En tant que tel, en fait, comme pays, quoi.
Ah, c'est quelque chose aussi... tu vois, par exemple, on a commencé et on a terminé la tournée à Vancouver. On a commencé avec un show de lancement, puis on a terminé avec un show dans un centre communautaire au centre-ville qui venait en aide à des francophones dans le besoin. Fait que là, juste avant le dernier show, on a eu une entrevue à Radio-Can, c'est ça? Fait qu'on est allé comme dans une émission
francophone.
Ouais. Que des journalistes francophones qui ont écouté ce que tu fais puis qui te parlent puis tu rembarques directement. C'est ça, c'est quand même assez surréaliste là, au centre-ville de Vancouver.
D'ailleurs, cette entrevue est disponible sur votre chaîne YouTube.
15h41, la formation montréalaise Ce qui nous traverse termine sa tournée dans l'Ouest canadien avec un concert cet après-midi à Vancouver. Le groupe de musique offrira une prestation dans les locaux de l'organisme communautaire La Boussole.
Ça s'est fait sur un mode miniature, là. Donc, on jouait à quatre, avec Andrea puis avec Zach. Mais le show du Sacre de Sainte-Barbe ou de Particules Sainte-Barbe est un show à géométrie variable. Donc, tu sais, on a fait des shows à quatre, qu'on tourne, des fois, c'est le choix qu'on fait. Mais aussi, on a fait des shows en ensemble. Mais quand on fait un show à quatre, donc, tu sais, Andrea...
Dans une formule plus volume brut, là, en fait.
Avec le
volume
drummer,
incident, un peu.
Avec le drummer Zach qui jouait sur volume. Là, Andrea se déplace entre le saxophone et la basse. Puis moi, je me déplace entre la basse et la guitare.
Ok, donc il y avait quand même le saxophone. Parce que moi, j'étais en train de penser
il fallait.
C'est
fallait.
Ça, parce que vu qu'il n'y avait pas les fils de recording qu'il y avait une personne qui assurait avec vous sur certains shows, et il n'y avait pas... D'autres instruments avant, en fait, il aurait clairement manqué quelque chose. Et ce saxophone-là, c'est le projet Sainte-Barbe. Dans le sens où, s'il n'y avait pas eu ça, c'était un groupe de rock.
Ben,
parmi
sûr.
D'autres groupes de rock, un peu. Tu sais,
c'est
tu vois
sûr
ce que
qu'il y a, on tient.
Et encore, il aurait fallu peut-être une clarinette en plus. Ou
oui, c'est ça. Tous les instruments qu'il y a sur l'album, en effet, ça. Ça ferait un petit peu bizarre de tout à coup retomber formule groupe de rock classique.
Quatuor sympa.
Ouais.
Mais est-ce que cette ambiance qui manque, est-ce que on va la chercher dans les effets de guitare, dans les pédales de guitare? Comment? Parce que c'est un pari quand même de faire une tournée comme ça avec beaucoup de joueurs en moins qui font quand même la singularité de la musique, du projet, des deux projets, en fait, où c'est vraiment le côté immersif, field recording, tout ça, en fait, il n'est pas là, quoi.
Je pense que ce qui change principalement, c'est la place que ça accorde aux musiciens, musiciennes, à nous-mêmes, mais aussi, c'est quelque chose qu'Andrea disait au saxophone, t'sais, autant elle aime ça jouer avec d'autres, quoi que ce soit, autant c'est vrai que là, c'est tout à coup... C'est-à-dire, je pense que dans nos effets puis dans nos jeux de guitare, oui, il y avait certaines variations. Peut-être que ça laissait surtout plus de place au saxophone. Mais même nous, à la guitare, quand j'y pense, je veux dire, c'est sûr que quand t'as 4-5 musiciens, musiciennes avec des timbres différents, qui t'as envie de laisser plus de place, et ainsi de suite, tu veux pas surcharger.
Mais là, t'as plus
ça
de travail maintenant.
Oui, c'est ça. Ça laisse un peu plus de place. Ça donne une marge
là,
de manœuvre.
Là, vous deux, vous avez plus de travail.
Oui. Il y a beaucoup de stock, là, du violoncelle, de l'harmonica, du saxophone, du piano. Puis là, avec batterie,
field recording aussi,
les guines,
les guitares et tout. Quand on joue en grand ensemble, il y a comme une pudeur. Il y a vraiment, c'est vraiment plus délicat. On fait attention à tout ce qu'on fait parce que sinon, si tout le monde se laisse aller, ça devient n'importe quoi.
Ouais.
Mais à quatre, là, il y a souvent l'énergie. Tu sais, comme le côté rock ressort plus.
OK.
Un petit mot un peu sur Sainte-Barbe. On a fini par s'intéresser au personnage à force de venir ici. Puis je ferai pas toute l'histoire, mais c'est une martyre des débuts de l'ère chrétienne. Et puis, vous irez lire si jamais ça vous intéresse. Mais ce qu'on a trouvé quand même assez curieux, c'est le fait qu'elle a été connue a posteriori comme la patronne des orages et des éclairs. Aussi des pompiers, entre autres. Donc, mais ce truc-là, très, très électrique, un élément d'énergie, c'était un hasard parce qu'on ne savait pas quand on a commencé à faire le projet ici. Mais ça a inspiré quelques titres des pièces de l'album. Puis aussi, je pense qu'une fois qu'on a su ça, ça nous a peut-être poussé à porter une attention différente, encore là, comme à la matérialité sensible du lieu, à ce truc-là un petit peu... étrange, électrique, vibrant qui se produisait ici.
Ce qui nous traverse est né des cendres du printemps érable, donc en 2012. Donc ça fait 11 ans que ce duo de guitaristes existe et s'est ouvert après à multiples musiciens pour différents projets. Et ça, dès l'album Des Lignes, en fait. Donc quel regard sur... sur cette décennie déjà entamée?
Ouais, mais je pense que les tournées, c'est des éléments marquants dans la vie de groupe, tu sais. Puis je pense que c'est quelque chose qui pour nous a toujours été clair. On veut
c'est
que
ce à faire.
Ouais, ben c'est que on veut que ce soit un projet résolument tourné vers le live.
Il y a eu différentes manières de l'aborder, je trouve. Puis c'est vrai que dès l'éponyme jusqu'à Des lignes et jusqu'à les deux volumes, là, il y avait vraiment... Ben, c'était de la musique qui avait été faite pour jouer en live. Et après, fait que là, il y avait ce côté très raw, très rock, très noisy, que moi, j'aime beaucoup. Les deux volumes, je les écoute encore aujourd'hui beaucoup, parce que je trouve qu'il y a vraiment ce côté grunge, garage, noisy, très actuel. Et après, les deux volets de Sandbarb, c'est forcément live, parce qu'on est dans le spectacle. C'est limite du théâtre musical, en fait. On va voir une œuvre, mais d'une autre manière, plus dans une exploration très théâtrale, en fait.
Quand tu veux tourner, quand tu veux ouvrir finalement une place où tu n'es jamais allé pour faire de la musique, une bonne manière de le faire, c'est de connecter avec les gens là-bas, puis de connecter avec les gens qui sont dans notre scène, puis qui ont des bonnes énergies, puis qui sont motivés, qui sont volontaires. T'sais. Fait que là, par exemple, on rencontre un label à Vancouver. Là, le monde sont motivés. Ils nous donnent un coup de main pour organiser la tournée. Ils nous donnent un coup de main au niveau de la production, puis de la promo, puis aussi ben, du gear, parce que c'est compliqué quand on voyage. Bon, je sais pas si les gens sont au courant, mais quand on voyage, c'est pas tout le temps évident d'amener exactement tout ce dont on rêve pour pouvoir faire la tournée. Donc, on adapte un peu notre truc, mais je pense qu'on a eu l'idée qu'un jour, on pourrait recréer cette espèce de cellule de projet. Une bonne manière de le faire, c'est de prendre son temps, de développer des relations humaines, de penser des projets, et pour la prod, mais aussi pour le live, puis de développer des liens avec des bands de là-bas. T'sais, nous, c'est quelque chose qu'on peut faire à notre rythme, à Montréal. On parlait à un moment donné de regarder du côté des scènes qu'il y a, par exemple, à Beyrouth, au Liban, ou des trucs comme ça. Fait que, tu sais, ça, c'est... Moi, je parle arabe. C'est un projet qu'on a depuis longtemps. Un jour, probablement, on va finir par le faire, mais on le fera pas n'importe comment non plus. On va le faire en prenant notre temps et en connectant avec du monde là-bas. Puis, peut-être dans une cellule plus courte que les 10 ans autour de cette barre, t'sais. Sont possibles. Est-ce qu'un jour, on va pas se faire le trip de refaire un album juste à deux guitares? T'sais? Possiblement, tu sais.
Comme ça a commencé.
Mm-hmm. Ben, c'est drôle parce que pendant la pandémie, tu sais, il y a eu... nous, on a continué à faire de la musique. On s'est retrouvés à avoir des nuits de création à notre studio où on a ironiquement en 2021 renoué avec nos premières nuits de création 8 ans avant. Fait que là, on met avec tout le bagage qu'on avait développé dans ces années-là à essayer des trucs, à improviser puis à créer. Donc, je pense qu'il y a le Cercle de Sainte-Barbe et Particule Sainte-Barbe, c'est un projet de grande envergure qui s'étale sur plusieurs années puis qui est pluridisciplinaire. Puis qui a été chargé. C'est un projet qui vient avec ses défis aussi quand vient le temps de naviguer pour le booking ou des trucs comme ça. Après ça, ben, faudra voir par quoi on se laisse porter. Puis, tu sais, nous, on a tout le temps été ouverts finalement aux rencontres, aux événements. Et on a rencontré beaucoup de musiciens sur notre route. Des gens avec qui on... Puis des gens aussi avec qui on... qu'on a juste regardé du coin de l'œil en se disant « OK, il y a de quoi faire. » On met ça sur pause. On s'est noté dans un calepin, mais un de ces quatre.
Il y a une bonne énergie, là.
Des fois, on voudrait qu'il y ait des choses qui se produisent et finalement, c'est quelque chose à côté qui est plus vibrant, plus intéressant. Puis « Ah bon, ben parfait, on va aller là, tu sais. » Et d'autres fois, puis je pense que là-dessus, ça a été peut-être une de nos forces à travers des années, des fois, il se passe rien si on n'active rien, tu sais. Fait que ça a été ça aussi, des fois, de se cracher dans les mains puis de faire comme, bon, OK, on veut collaborer avec telle personne, on pense à tel projet, on va aller chercher les ressources et puis on met les choses ensemble. Fait que moi, je vois ça comme une espèce de mélange des deux.
Okay.
Autant suivre qu'est-ce qui se passe et tout à coup, ben, si on est trop en attente d'occasion, ben, c'est difficile d'incliner les choses.
Ça, c'est quelque chose qu'on sent? Quand il faut forcer la main et pour une autre personne qu'il faut laisser faire la vie et advienne que pourra.
Ouais, ben c'est peut-être aussi beaucoup dans
une ambivalence un peu.
Oui, mais aussi dans un enthousiasme par rapport aux rencontres. Tu sais, je veux dire, puis en toute humilité, c'est on a deux backgrounds de philo, on aime ça discuter avec les gens. Tu sais, je pense que c'est des choses des fois que les gens nous disent. C'est des fois, on s'est déjà fait dire que les gens avaient envie de collaborer avec nous. Oui, pour la musique, mais aussi pour la rencontre humaine que ça amenait, tu sais, puis d'arriver avec, je sais pas, tout un bassin d'idées. On n'en a pas trop parlé, mais la plupart de nos projets sont quand même assez... On n'arrête pas de parler de philo, de littérature, d'inspiration, de cinéma. Pour nous, quand on arrive avec un projet, on invite vraiment les gens... Ouais, c'est ça, à se laisser traverser par quelque chose, tu sais.
Donc on est plus apaisé, puis on fait plus confiance à la vie, puis au hasard.
Ouais, dans un sens, tu sais.